Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ?
Souvent, je vous invite en dehors de votre fauteuil, je vous propose qu'on se déplace dans l'espace, qu'on se projette ailleurs. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est un peu ça, mais on va aussi et surtout voyager un peu dans le temps. On va se balader dans les couloirs de l'histoire avec l'entretien du jour. Imaginez Château Gontier, il y a 350 ans, on va parler de femmes drapées de blanc, prêtes à consacrer leur vie aux autres, silencieusement, mais infiniment présentes. Je vous parle là de la communauté des Augustines et on va échanger aujourd'hui avec Sœur Annie, justement à l'occasion des 350 ans de présence des sœurs. Sœur Annie est la dernière des Augustines et pour cet anniversaire, le centre hospitalier du Haut-Anjou expose des objets ayant appartenu à cette communauté. Cette exposition est justement prolongée et visible jusqu'au 30 novembre. Donc on en parle ensemble dans quelques instants. On aura également aujourd'hui la petite annonce au bout du fil de l'auditeur. Et puis ce sera également le dernier épisode signé Aubin Madio de la Parade Mayenne 2024. Notre jeune reporter a tendu son micro aux athlètes mayennais ayant participé au JO 2024 et partage avec nous ses échanges. On termine cette émission avec Jean-Michel Guinaudot et la chronique de l'UFC Que Choisir. Parce que oui, amis auditeurs, c'est bien l'agité du local qui commence. Je suis Margot et je vous emmène avec moi auprès de Sœur Annie. L'agité du local sur l'autre radio. Bonjour Sœur Annie, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez peut-être pour commencer vous présenter avec les mots que vous souhaitez ?
Je suis Sœur Annie, une religieuse augustine. Depuis un an, je suis un peu plus d'un an, bientôt, je suis revenue à Château-Gontier après un périple particulier dû au deuil que j'ai vécu dans ma communauté, la fermeture de mon monastère. Je suis allée chez les Augustines de Pont-l'Abbé une année et finalement je suis revenue sur ma terre, mon pays, retrouver mes amis, les gens que je connaissais, les malades. J'étais infirmière à l'hôpital toute ma vie et j'ai été baptisée à la chapelle de l'hôpital. Curieux, une vie comme ça. Voilà, je suis née en 46, je suis après-guerre, je commence à avoir de l'âge, je suis senior, peut-être plus que senior, mais enfin, dans mon cœur, je suis jeune.
Si vous deviez décrire l'esprit des Augustines en quelques mots, les valeurs qu'elles portent, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire ?
Augustine, c'est une vie canoniale, donc en communauté. Maintenant, je dis en riant, je suis ermite de Saint-Augustin. Mes 56 ans de vie en communauté m'aident beaucoup à vivre. J'ai ma flûte, j'ai l'orgue. Et des fois, les gens viennent prier avec moi. C'est une vie d'amour au service de Jésus, des frères. La vie canoniale, c'est 3-4 volets, c'est-à-dire la vie de prière, de silence et aussi de détente. Je vous ai fait voir mon album photo, c'est pas triste, c'est important. La vie fraternelle, donc les offices, j'aimais beaucoup chanter les offices, ça me manque un peu. Et puis le service des pauvres et des malades.
Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez été infirmière ?
Oui, j'étais infirmière, mon rêve d'enfant. Je pensais à la vie religieuse toute petite parce qu'il y avait les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, vous savez, les cornettes et la deux chevaux de Louis de Funès. Elles étaient chez nous, elles avaient un orphelinat, elles faisaient des piqûres. Une, il n'avait pas de voiture. Château-Gontier a payé une voiture, une deux chevaux à la sœur. C'est extraordinaire. J'ai fait mes études à la Croix-Rouge à Laval. J'étais très heureuse. L'école rurennaise qui a disparu, bien sûr, c'est quand même vieux. Je n'ai pas l'impression d'être aussi vieille que ça, mais c'était très bien. Après, j'ai travaillé un an chez les Augustines à l'hôpital de Château-Gontier. J'aimais les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Château-Gontier. J'aimais les Augustines. Et finalement, je suis rentrée chez les Augustines, influencée par un jésuite de Laval, si vous voulez, qui m'a dit « Non, il faut rentrer chez les Augustines ». Parce que les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, ce qu'ils me disaient, c'est le régiment. Je n'avais pas expérimenté, je n'ai pas été faire un stage. Maintenant, on fait davantage de stages. Mais je n'ai pas été déçue, j'ai été aimée et j'ai aimé.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la vie religieuse ?
Eh bien, c'est toute petite. J'ai peut-être une photo là dans mon album. En voyant la sœur de Saint-Vincent-de-Paul, et puis les sœurs étaient tellement gentilles. Elles s'occupaient des gens malheureux, pauvres, divorcés. et j'adorais la suivre. Elle avait un gros chapelet avec une tête de mort. Elle était dans les rues, elle n'avait pas de voiture. Je courais après elle, elle me fascinait. Et je disais, quand je serai grande, je serai comme Sœur Louise. Alors elle me disait, dépêche-toi de grandir pour venir me remplacer. J'ai jamais oublié ça. Et avec des combats, bien sûr, parce que la maternité, l'amour humain, je ne suis pas du tout indifférente. J'aime toujours beaucoup la vie.
Vous avez assisté à différentes évolutions dans votre vie.
J'ai connu l'évolution dans les soins. Vous allez voir, si vous avez le temps, Margot, de voir les seringues en verre. Vous allez voir toute cette évolution. Et puis l'évolution de la communauté, on a commencé à sortir un petit peu pour les besoins. Quand nous étions à l'Olivier, de 82 à 2022, nous portions la communion aux malades, où on allait voir les gens un peu seuls.
Vous avez longtemps été à la chapelle de l'Olivier, c'est bien ça?
Les gens venaient beaucoup, ils trouvaient que c'était une petite bergerie. C'était très très beau. Nous avions construit notre chapelle petite, mais très très belle, avec Sœur Myriam, qui était très artiste. On avait des pierres, j'ai vu construire la chapelle. Mais je n'avais pas de photos parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'appareil numérique.
À quoi ressemblait votre quotidien, Sœur Annie?
Nous avions la messe à l'Élaude, la prière du matin, les poèmes. C'est très beau, les psaumes. Le matin, à 6h30, l'Eucharistie, la messe à 7h, après le petit déjeuner, nous avions un petit oratoire très beau. Nous allions prier jusqu'à 8h30, l'oraison. Après, nous allions à l'hôpital, 8h30 jusqu'à midi, midi et demi. Et l'après-midi, alors nous avions l'office du milieu du jour, sexe si vous voulez, ou nonne. C'était plutôt sexe pour nous. Après, nous avions le réfectoire, en silence, la lecture. J'aimais beaucoup cette vie de... Si vous allez à Tima 2 qu'en hôte, on a aussi le silence. Et l'après-midi, donc, nous avions la rencontre communautaire qu'on appelait récréation. Si vous avez vu le film de Thérèse autrefois, alors je trouvais bizarre, on avait des paniers. Je me disais, quand j'ai été voir pendant un an, j'allais de temps en temps, mais je me disais, mais pourquoi les sœurs, elles ont des paniers, elles font de la couture, elles ne peuvent pas rester à... Et c'est parce qu'on n'avait pas le temps de faire notre couture autrement. Mais après, on a eu des fois... Moi, j'ai eu des malades qui ont fait ma couture. Ouais, qui était en long séjour en particulier. Et donc on allait 3h30, 4h, on retournait jusqu'à... On mangeait, nous les soignantes, parce que tout le monde n'était pas soignant, on mangeait quand on pouvait, on allait manger rapidement. Et on revenait pour les vêpres à 8h30. Oui, et si besoin, on retournait, ou on se levait parfois la nuit, sur Sœur Myriam qui était au bloc opératoire, ou quelquefois on faisait des nuits. On aimait tellement faire une nuit de temps en temps qu'on se disputait presque, enfin on se battait presque pour faire une nuit. C'était bien, les nuits on vit autrement quoi. Puis le personnel de nuit prenait soin de nous, enfin j'aimais beaucoup ma vie.
Vous avez fait beaucoup de rencontres au cours de votre vie et aujourd'hui vous continuez justement à accompagner les gens.
Là je suis dans les deuils malheureusement. Et je soutiens les familles, avec discrétion aussi. Hein. Vous savez, les paroles, c'est très difficile. Quand les gens nous disent toutes leurs blessures, vous n'avez pas le droit d'avoir une parole, mais vous avez le droit d'avoir une présence. Vous êtes accepté par la présence. Donner la main, être là, revenir chaque jour.
On parle de deuil, vous êtes la dernière sœur Augustine. Et vous m'avez parlé tout à l'heure de ces étapes où vous avez vu vos sœurs partir également.
Oui, c'était difficile. Bon, c'est difficile de perdre ses sœurs quand on les aime. J'ai été aidée par les familles des sœurs. J'ai essayé de rendre tout leur patrimoine. Oui, les familles des sœurs et puis mes amis, les soignants. Les soignants et j'essaie aussi de les aider quand ils ont de la peine. Je vais se prendre dans les bras. La tendresse, j'aime beaucoup la tendresse de Bourvil. Bon, on chantera peut-être pas ça à ma sépulture, parce que je... Mais c'est un chant que j'aime beaucoup. Ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Puis Sœur Myriam, bon, quand on est prieur, j'ai été responsable pendant des années. Quand les sœurs, elles décèdent, on est obligé de voir le courrier, les papiers, c'est long, avec discrétion. Et j'ai trouvé ce chant-là dans ses chants. J'ai dit, ah ben tiens, tu vois, sœur Myriam, on avait les mêmes goûts.
Il y a aujourd'hui une exposition visible jusqu'au 30 novembre au centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier. C'est une exposition d'objets ayant appartenu justement aux sœurs Augustines de l'hôpital Saint-Julien et d'objets même issus de la collection privée du centre hospitalier. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir ?
Il y a des objets médicaux, je crois qu'on dit. Par exemple, des seringues, des haricots, des bouillottes. Nos bouillottes, j'en avais encore une avant de partir, des bouillottes en métal, des petits tiroirs. Vous savez, on n'avait pas de tableau pour effacer des tableaux. Alors on avait, c'était très joli, des petits tirets, des petits bâtons en bois. Et on disait parloir, on disait jardin. Par exemple, moi, quand on me cherchait, on n'avait pas le téléphone portable, on l'a eu, je l'ai eu à la fin quand même. Mais on avait des sons, moi c'était 2 et 3, mais si vous étiez loin, alors on disait jardin, course, sous-sol, repassage. Et on peut voir ça, on peut voir bien sûr des photos. Pendant la guerre, les sœurs se sont beaucoup investies, il y en a qui ont eu des médailles. C'est très, très impressionnant.
Et alors vous parliez de l'évolution du matériel médical.
Alors on flambait, vous rendez compte ? On flambait les plateaux, on mettait de l'alcool à brûler, puis une allumette, c'est dangereux. Et puis qu'est-ce qu'on faisait ? La stérilisation. On essuyait, on lavait, on mettait au poupinel, à l'autoclave. C'était beaucoup de travail. Et puis j'ai connu les cahiers à pharmacie. J'ai connu les visites que l'on prenait sur un cahier. On suivait le médecin. Maintenant, c'est l'ordinateur partout.
Aujourd'hui, vous commentez les visites 2 fois par semaine.
Ben, ça me fait plaisir, parce qu'on m'a proposé gentiment l'hôpital. Et donc, ça me fait plaisir, parce que je trouve qu'elles ont de l'égard pour moi. C'est gentil. Je suis heureuse de le faire.
Aujourd'hui, vous vivez au sein des anciens bains-douches de Château-Gontier et vous continuez l'accompagnement. C'est ce qui compte encore le plus, peut-être, pour vous aujourd'hui, dans tout ce parcours que vous avez eu.
Bon, ma vie au Seigneur, évidemment, hein. Je suis religieuse, là, j'ai l'anneau, et c'est Jésus dedans. Et puis, oui, les malades, je suis toujours motivée. Je suis toujours en action. Des fois, on me dit qu'il faut que je ralentisse un peu. Mais bon, tant que je peux, je me donne. Je fais vœu de servir les pauvres et les malades, tant que je peux, quoi. Bon, après, je sais pas, j'irai peut-être en maison de retraite, je ne sais pas. Je ne sais pas mon avenir, mais je vis aujourd'hui. Je ne m'inquiète pas pour demain. Si je suis malade, bien, déjà j'ai eu le Covid une fois. Je ne l'avais jamais eu, je l'ai eu là, il y a un an. Ça fera un an à Noël. Eh bien, les gens m'ont porté à manger à ma porte. Ils m'ont porté des tests. C'est formidable. Ah oui, je sais que je donne ce que je peux, mais j'attends pas de reconnaissance par rapport à ce que je donne, j'attends pas de merci. Mais il y a un amour, une amitié spontanée. C'est beau.
Aujourd'hui, cette exposition et ce temps que marque le centre hospitalier du Haut-Anjou autour des 350 ans de la présence des sœurs Augustines à l'hôpital justement Saint-Julien, c'est aussi une manière de transmettre un héritage. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on n'oublie pas, sœur Annie ?
Leur vie donnée, leur vie totalement donnée, gratuitement. Les sœurs, elles n'étaient pas payées. Enfin, on était filles de la maison, c'est-à-dire qu'on était nourries, logées, blanchies. Bon, c'est encore... c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu ça, loger, le logement, on l'avait fait. C'est pour ça que vous allez voir les petits biscuits à l'année. En fait, on n'arrivait pas à payer les murs. Et pour payer les murs, on a inventé les biscuits à l'année qui ont eu un succès jusque dans le sud de la France. J'ai lu ça. Elles ont arrêté pendant la guerre parce qu'il n'y avait plus de lait. Pour construire les murs, le cloître de la communauté, tout le monde peut venir voir le cloître. C'est-à-dire que quand vous entrez à l'hôpital de Château-Gontier, sur le quai Georges Lefebvre, vous montez, à droite vous allez voir les malades, à gauche vous avez un cloître avec un petit oratoire, un lieu de prière qui peut être ouvert aussi aux autres religions. Je vais prier là-bas, il y a des fois des gens qui viennent dire le chapelet avec moi, les pauvres. Et ce cloître où j'ai vécu 15 ans, je le retrouve. C'est très beau. Alors, vous pouvez aller voir le cloître. C'est vraiment beau. Il est en tuffeau. Il a pas le caractère du cloître des Ursulines. Mais si vous venez à Château-Gontier, n'hésitez pas à aller. J'aurais voulu dire tout l'amour, tout le labeur que mes sœurs ont donné. De jour, de nuit, sans jamais... Il y en a qui allaient pour faire manger les malades, celles qui n'étaient pas infirmières. On était plus orientés quand même vers le soin. Bon, il y avait la sœur sacristine, la sœur tourière qui sortait à ce moment-là, où vous allez voir le tour, justement. Et mes sœurs ont tellement donné tous les jours. Puis des fois, la vie était dure. Je vois sœur Myriam qui était aide opératoire. Elle se levait la nuit. Moi, ça m'est arrivé aussi de me lever la nuit un peu. Parce que il y avait des choses, les internes ne savaient pas. Par exemple, sonder un malade, c'était maintenant, peut-être que les infirmières savent bien. J'avais appris avec une sœur aînée. Alors des fois, on m'appelait la nuit. Oui, alors maintenant, quand même, les malades à l'hôpital, je trouve qu'ils sont bien entourés. Les infirmières, elles sont gentilles au CPA, là, à la maison de retraite. J'admire les employés. Des fois, je traîne le dimanche. Je vais porter la communion ou dire bonjour ou dire c'est dimanche ou sourire. Tout le monde ne pratique pas, mais je respecte beaucoup. Ils sont contents. À Pont-l'Abbé, je me rappelle, c'était deux hommes, deux marins. Ben, ils ne pratiquaient pas, je ne pense pas. Et puis, pour les rejoindre, je m'étais mis à chanter le refrain « C'est nous, les gars de la marine ». Oh, j'avais dit, qu'est-ce qu'elle est chouette. Après, je les ai entendus dire ça. Il faut rejoindre les gens là où ils en sont et pas essayer de... Vous savez, c'est pas par le prosélytisme qu'on gagne les cœurs. C'est par l'amour qu'on gagne les cœurs. Seul compte l'amour. Michael Lonsdal, là, qui est mort il n'y a pas longtemps. J'avais un livre sur lui, je l'ai donné. Quelqu'un. Mais ça fait rien. Il disait « Seul compte l'amour » et je crois qu'il a découvert la foi après, très tard, il a été baptisé. Enfin oui, pour moi, seul compte l'amour, aimer. Et à la fin de ma vie, vous voyez, je me dis que des fois on a des pardons à donner, on a vécu des choses, je parle pas de ma communauté. On a vécu des choses un peu difficiles. Il faut avoir beaucoup d'empathie aussi. Là, je suis devant la mort. Là, j'ai accompagné un monsieur qui vient de mourir, mais c'était beau, je ne vais pas trop le dire parce que j'ai peur de manquer à la discrétion vis-à-vis de la famille. Mais je lui ai appris un chant formidable. Et bon, il était croyant, mais pas pratiquant. Et le soir, il m'attendait pour prier avec moi. Mais je n'ai pas forcé. Et puis il a dit, j'aime bien. Et puis il a dit, on va se tutoyer. C'est formidable. J'ai dit, si tu veux. Parce qu'il me disait des choses très profondes. Il avait pas peur de mourir. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis, pour lui, sa vie était terminée, accomplie. Alors, j'ai chanté un chant religieux. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Vous voyez, même si on n'est pas religieux, il faut avoir la paix au cœur. Il faut se demander pardon. Sans parler de la foi, je crois que c'est très important pour moi. Et puis si j'ai du mal à aimer quelqu'un, ça peut m'arriver. Des fois, je dis, Seigneur, aide-moi à l'aimer. C'est vrai, c'est ma vie, quoi. Je parle à Jésus comme ça. Je parle à mes sœurs qui sont parties. Je lui dis, tu serais contente de voir ça. Je suis fière d'elles, quoi. Fière de leur vie.
Merci, sœur Annie, pour ce moment et cet échange. Alors, je rappelle qu'à l'occasion des 350 ans de présence des sœurs Augustines à l'hôpital Saint-Julien, une exposition d'objets est visible jusqu'au 30 novembre, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. C'est gratuit, ouvert à tous. Et alors, quelques visites commentées ont eu lieu. La dernière, d'ailleurs, est aujourd'hui, à 14h et à 16h. Et j'en profite d'ailleurs également pour vous informer que le centre hospitalier du Haut-Anjou a lancé un appel aux dons pour des vitrines sécurisées dans le cadre d'un projet d'exposition permanente. Pour cela, n'hésitez pas à contacter le service communication par mail à communication@ch-autanjou.fr ou par téléphone au 02 43 09 33 11.
Allô, Jean-Pierre ? C'est Jean-Pierre ? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans?
Excuse-moi.
Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner?
Dis donc, oh!
Allô? C'est Guy. Bah.
Et alors, la petite annonce au bout du fil aujourd'hui, c'est celle du Secours Populaire à Château-Gontier. Et on a avec nous au téléphone Jeanne Lemaître.
Bonjour à tous. Je suis Jeanne Lemaître, responsable Secours Populaire pour le comité de Château-Gontier. Comme chaque année, nous organisons notre spécial Noël dans nos locaux, 11 rue du Général Lemonnier à Château-Gontier, le vendredi 8 novembre, 9h midi, 14h, 17h. Et le samedi 9 novembre, 9h, 12h. Nous mettons en vente des jouets, en majorité neufs, et de l'occasion, et une quantité importante de décorations de Noël. Cette opération est ouverte à tout public et durera, suivant nos stocks, jusqu'au 15 décembre. Merci d'avance pour votre présence.
Merci beaucoup, Jeanne. On continue avec le dernier épisode de la série d'entretiens que nous partage Aubin Madiot avec nos athlètes mayennais ayant participé au JO 2024. Ça se passe dans quelques instants, mais avant, on écoute Sarah Oswald, Island. Écoutez l'agité du local, c'est sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier épisode d'une série de 6 entretiens que nous partage Aubin Madiot avec nos athlètes mayennais ayant participé au JO 2024 à Paris. On écoute aujourd'hui donc le tout dernier, et donc c'est celui avec Heidi Gauguin.
À l'occasion de la parade Mayenne 2024 organisée le lundi 21 octobre par le département, de nombreux supporters mayennais et mayennaises se sont donc donné rendez-vous à l'espace Mayenne pour célébrer nos athlètes locaux. L'occasion de leur demander des photos, des dédicaces ou autres, nous on a décidé de les rencontrer, de leur demander ce qu'ils ont pensé de ces Jeux après 2 mois, leur joie, leur déception, mais aussi leur ressenti quant à la ferveur mayennaise françaises présentes en nombre sur le bord des routes et dans les gradins, mais aussi leurs ambitions dans l'optique des Jeux de Los Angeles 2028. C'est une série de plusieurs épisodes où nous rencontrons donc ceux qui ont fait vibrer le département, mais aussi les supporters présents en nombre pour soutenir leurs idoles, avec pour certaines des spécificités assez particulières, vous verrez. Aujourd'hui, nous accueillons l'une des grandes femmes françaises de ces Jeux paralympiques. Heidi Gauguin, triple médaillée d'argent, en poursuite individuelle sur piste, en contre-la-montre et en course en ligne sur route. La paracycliste originaire de Saint-Jean-sur-Erve, dans le Coëvron, nous raconte ses Jeux, heureuse après coup de ses 3 médailles, même si l'or lui a échappé de peu.
Un bilan de mes Jeux, donc très positif, puisque j'ai rempli les objectifs qui étaient de monter sur la boîte. Donc pour ce coup-là, je suis très contente. Les émotions de course ont fait que sur le moment, j'ai pu être déçue de finir si proche de la médaille d'or. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je suis très très contente à froid de faire 3 médailles. Ouais. C'est vrai que sur le coup, j'étais déçue parce que je fais très très proche de l'or. Et bon, quand on est compétiteur, on aime être médaillé d'or. Donc voilà. Mais non, très très contente. Une super expérience. Si c'était à refaire, je ferais tout pareil.
Aucun regret pour la vice-championne qui ne réalise toujours pas d'avoir pu monter sur la traditionnelle boîte.
On s'habitue pas vraiment au podium. Hein. C'est tellement agréable comme émotion qu'on a envie que ça dure tout le jour. Donc je vais tout faire en tout cas pour en décrocher des nouveaux sur les prochaines Paralympiades. Et voilà.
Une performance qu'elle dédie également à son département et ses supporters, reconnaissante du soutien qu'elle a pu recevoir, grâce notamment au bus déployé pour transporter ses fans.
Ah oui, carrément, bien sûr, pour tout le département qui s'est déplacé ou qui m'ont suivi à travers les réseaux sociaux ou autres. Donc bien sûr, c'était pour les remercier, voilà, pour tout ce qu'ils m'ont apporté au cours de ces Jeux, même avant d'ailleurs. Ferveur mayennaise, la ferveur de ma famille, en fin de compte, c'est le plus important, c'est pas le nombre qui compte, c'est les personnes qu'on aime et qu'on chérit. Donc quand j'ai vu des Mayennais qui se sont rapprochés de moi, ça m'a fait tellement plaisir, que ce soit même les bénévoles que j'ai pu croiser aux alentours des Jeux. Donc voilà, toutes ces émotions, la Mayenne derrière moi, ça me procure vraiment beaucoup de plaisir.
L'athlète mayennaise née sans avant-bras gauche a ressenti notamment lors de ses Jeux paralympiques un regain d'intérêt lié aux personnes victimes de handicap, en particulier dans sa discipline, très peu suivie hors période de Jeux.
Ça a permis, je pense, de faire connaître le paracyclisme, qui, bah, tout comme le parasport en général, n'est pas super connu. Donc au moins, ça a permis aux autres et permis à tous les spectateurs de voir que le sport, en fait, même para, c'est du vrai sport. Il y a des vraies émotions, des vrais enjeux, des vraies performances. Donc non, je pense que là-dessus, médaille ou pas médaille, ça a apporté de la visibilité.
Un développement personnel qui n'aurait rien été sans l'aide de la Mayenne, partenaire lui ayant permis de grandir dans ce milieu. Un partenariat sport et département qui permet, selon elle, de conduire à de beaux projets comme celui du Vélodrome François Pervis à Laval.
Donc la Mayenne a été l'un de mes premiers partenaires en fin de compte quand j'ai commencé le cyclisme de haut niveau. Ça a été le premier à croire en moi et en mes capacités, donc voilà, c'est pour ça que je les remercie encore. Alors déjà, je pense que la Mayenne a vraiment bien contribué à son développement du sport, notamment avec la création du Vélodrome François Pervis. Donc qui apporte aussi de la visibilité sur le cyclisme et qui développe un peu le sport. Donc là-dessus, c'est vraiment un beau pas qui a été fait. Après, c'est tous les nouveaux projets qu'ils mettent en place qui font que ça fait rayonner le département à travers le sport, qui continue comme ça à faire développer le sport pour les Mayennais. Ouais.
Heidi, multi-récompensée en junior mais aussi chez les adultes, ne s'arrête pas là. La jeune Mayennaise de 19 ans, soif de justice, a désormais pour ambition de concourir chez les Valides, un exploit encore jamais réalisé dans l'histoire des Jeux en cyclisme.
C'est vrai, alors je dis pas que le 2024 c'était pas du tout un objectif, au contraire c'était un objectif, mais étant jeune et ayant encore plein d'autres choses à faire, j'espère, je me projette déjà sur 2028 et c'est vrai que j'ai envie de plus, j'ai envie beaucoup de vivre d'autres choses, donc les Jeux de 2028 ça sera un objectif, ouais, chez les Valides. Ça sera compliqué, oui, ouais, bien sûr, il n'y a pas du tout de chemin facile, au contraire, mais en cas d'échec, enfin, je veux dire, ça me fait pas peur, j'ai beau l'annoncer, le dire que j'aimerais, au pire, ça me fera que évoluer. Donc, c'est une expérience. Voilà.
Merci Heidi Gauguin d'avoir répondu à nos questions. Ça y est, c'est la fin des chroniques liées à la parade Mayenne 2024. Un grand merci une nouvelle fois à tous les athlètes, supporters et acteurs du département qui ont accepté de répondre à nos questions. On se retrouve quant à nous pour une prochaine chronique en lien avec le sport ou autre. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et je redonne la parole à Margot pour la suite des informations.
On retrouve cette chronique le mercredi, tous les 15 jours dans l'AJT. C'est la chronique du bon consommateur. Et c'est avec Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir de la Mayenne.
La chronique du UFC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, vous êtes bénévole à l'UFC Que Choisir de la Mayenne. Les consommateurs appellent votre association pour connaître leurs droits en cas de litige avec un professionnel. Aujourd'hui, vous souhaitez nous faire part de quelques témoignages.
Bonjour Margot. Oui, tous les jours, du lundi matin au vendredi midi, un ou une bénévole répond aux appels de consommateurs en difficulté. Le bénévole écoute le consommateur, cherche à comprendre quelle est la nature du litige. Et s'il sent que le consommateur est dans son droit, il peut donner des conseils pour qu'il puisse se défendre ou donner un rendez-vous avec un conseiller litige qui pourra étudier l'affaire de façon plus approfondie et, dans la mesure du possible, défendre les consommateurs.
Alors, est-ce qu'il y a des domaines où l'on retrouve plus de litiges ?
Nous avons ce que l'on appelle les grands classiques. Par exemple, le refus par le vendeur d'appliquer la garantie légale de conformité en s'appuyant sur la garantie commerciale bien moins protectrice. Dans beaucoup de cas, le rappel à la loi suffit à obtenir satisfaction, mais il faut quelquefois un courrier à l'entête de l'association pour faire plier le vendeur. Et même quelquefois, aller en justice. Récemment, c'est une tablette tactile qui ne se rechargeait plus seulement quelques mois après l'achat, ou une plaque de cuisson d'une cuisinière qui se décollait. À chaque fois, le vendeur renvoie au fabricant, alors que le vendeur doit réparer ou remplacer le produit dans le mois qui suit la demande. Le deuxième poste est celui des voitures d'occasion qui tombent en panne peu de temps après l'achat. Et là, malheureusement, le litige est souvent insoluble, soit parce que le véhicule est trop âgé, a fait beaucoup de kilomètres, et il faut savoir que le changement de conducteur n'est pas apprécié par les vieilles mécaniques. Certains acheteurs ne prennent pas assez de précautions dans leurs achats. Absence de carte grise, défaut apparent, achat lointain. Mais il arrive que le vendeur soit de mauvaise foi. Un rappel de la loi, voire l'assistance pour aller devant le conciliateur, est alors nécessaire. Les fraudes bancaires sont encore nombreuses, malgré les avertissements des banques. Récemment, une personne ne s'est aperçue de la perte ou du vol de sa carte bancaire que plusieurs jours après, en découvrant des achats qu'elle n'avait pas faits. Car pour régler ses achats courants, elle utilise son smartphone et ne s'était pas aperçue de l'absence du petit bout de plastique. Une personne a reçu un appel d'un soi-disant technicien d'Orange qui lui a demandé de le rappeler pour qu'il puisse faire des vérifications techniques sur la ligne. La communication avec le numéro surtaxé a duré plus de 2 heures. La personne, trouvant le temps long, a raccroché, ce qui a provoqué la colère du pseudo-technicien qui l'a rappelé. Mais comprenant l'arnaque, la personne n'a pas rappelé. Coût de la communication à l'autre bout du monde, plus de 150 euros, et là, non remboursé par Orange. Des artisans arnaqueurs, il n'y en a pas beaucoup, mais ils font de gros dégâts. Travaux non faits, mais payés, malfaçons, même avec des sociétés de construction de pavillons ayant pignon sur rue. Souvent, ce sont des retards de livraison pour lesquels le contrat prévoit des indemnités. Mais là, c'est toujours la faute des intempéries. Dans plusieurs cas, une demande des justificatifs et une transaction ont permis de mettre fin au litige. Sans compter les petits défauts constatés lors de la réception et qui ne sont pas réparés. La vigilance doit donc être accrue lors de commandes à distance et refuser tout achat lors d'un démarchage, même sollicité. Et prendre des risques en connaissance de cause.
Mais il faut donc faire très attention et surveiller ses comptes bancaires. Rappelez-nous les coordonnées de votre association.
L'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi au vendredi matin, de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02 43 67 01 18 et par mail à contact@mayenne.ufcquechoisir.fr ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir. Pour un renseignement, ou un rendez-vous à Laval ou Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services pour des animations ou le traitement des litiges. À bientôt.
Merci Jean-Michel. L'AJT du local s'arrête ici. Merci à Sœur Annie d'avoir été à mon micro aujourd'hui. Merci à Aubin Madio pour cette très belle série d'entretiens. Et merci à Jean-Michel Guinaudot, notre chroniqueur du jour. Moi, je m'arrête maintenant, mais ça continue bien sûr sur nos ondes. Et alors à 19h, c'est Novorama pour découvrir la nouvelle scène indie rock, pop et électro. Ensuite, ça sera une émission métal. À 21h, c'est évidemment notre émission Chaosphère. Et alors ce soir, c'est une émission 100% nouveauté. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Nous serons avec la compagnie Fouic, la nouvelle compagnie associée du Carré à Château-Gontier qui vient tout juste de terminer sa première semaine de résidence. D'ici là, laissez traîner vos oreilles sur les ondes de l'autre radio, offrez un sourire à quelqu'un qui n'en attendait pas. Enfin, surtout, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, On dirait que c'est fini. Oh, bah, c'était bien, hein.